Jacques Doriot. Le voici devant notre micro et nous lui passons la parole.
En 1934, Jacques Doriot, leader politique français, se situe très loin du fascisme.
Le monde capitaliste est traversé par une crise extrêmement profonde. Les classes sociales qui faisaient la richesse des nations, les ouvriers, les paysans, les classes moyennes connaissent une abominable détresse.
En effet, en 1934, Jacques Doriot est un cadre du Parti communiste.
L'unité entraînera toute la classe ouvrière derrière le drapeau du socialisme. L'unité permettra l'alliance de toutes les victimes du capitalisme. L'unité sera la clé qui nous ouvrira la porte de l'histoire.
10 ans plus tard, à l'automne 1944, Doriot porte un uniforme avec une croix gammée et appartient lui aussi aux exilés collabos, réfugiés en Allemagne.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
Curieux destin que celui de Jacques Doriot. Ancien communiste, il est à la fin de la guerre l'homme politique français sur lequel compte Hitler. Figure de proue des ultras de la collaboration, Doriot est considéré par ses troupes comme le Führer français. À la tête du PPF, parti fasciste fondé en 1936,
Français, nous vous appelons au Parti populaire français, derrière Jacques Doriot, pour refaire la France.
Doriot se retrouve lui aussi en Allemagne, à l'automne 1944. Installé à 50 km de Sigmaringen, sur les rives du lac de Constance, Jacques Doriot se tient à distance du panier de crabes. Il attend son heure. Il aspire d'abord à réunir sous son autorité et sous sa bannière toutes les obédiences de l'extrême droite française regroupées à Sigmaringen. Et il est persuadé que le salut de la culture européenne doit passer par la victoire des nazis. Alors, qui est précisément ce Jacques Doriot? Comment est-il passé du communisme au nazisme juste avant la guerre? Et qu'incarne-t-il en janvier 1945 au sein de la colonie des collabos de Sigmaringen? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont blêmes.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. 5e épisode, les funérailles du corbeau.
Vous allez ployer le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclair.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941, vous étiez un jeune fasciste?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Les jeunes, après moi, vive le maréchal!
Je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on voit venir.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici, Nuremberg.
La France vous demande que justice.
Le récit débute le dimanche 1er décembre 2024. Le clocher de l'église de Sigmaringen nous indique qu'il est 9h du matin et devant notre hôtel ronronne un taxi qui nous attend.
Where do you want to go?
Mingen.
Mingen, okay, you can sit.
Okay, perfect.
And we are
four.
We are four?
Okay. Yes, thank you so much.
Nous allons prendre la direction de Mengen, un village situé à 15 km au sud-est de Sigmaringen. Nous traversons la campagne du Bad Württemberg. Le ciel est neigeux et il fait un froid de gueux.
Henri Rousseau, nous sommes en train de quitter Sigmaringen. Où est-ce que nous allons?
Nous allons à Mengen, au cimetière où a été enterré Jacques Doriot. Et nous sommes à mi-chemin entre Sigmaringen et Meinau, qui est sur le lac de Constance, où les troupes de Doriot et Doriot lui-même se sont installés à peu près fin novembre, début décembre 1944.
Devant l'avancée des Alliés, Jacques Doriot, leader nazi français, est venu se réfugier en Allemagne avec ses troupes en août 1944. D'abord installé à Neustadt, en Rhénanie, Jacques Doriot se rapproche de Sigmaringen durant l'automne, comme s'en souvenait Albert Begras, un proche de Doriot.
Depuis le mois de décembre, Jacques Doriot et sa suite se sont installés au château de Meynaud. Il y a logé la rédaction de son journal, tous les membres de son bureau politique, leurs familles, leurs secrétaires, leurs domestiques, leurs fous. Doriot, le fils d'ouvrier, le communiste excommunié, le maire de Saint-Denis, le chef du Parti populaire français,
bois, ou ton Rothschild,
va vivre ses dernières semaines d'homme traqué, dans un luxe de conte de fées, entouré de sa cour d'honneur et de ses sbires de la Wehrmacht.
Nous sommes arrivés au cimetière de Mengen, un lieu désert et silencieux, en ce dimanche 1er décembre 2024. C'est là qu'est enterré Doriot. Et avec l'historien Henri Rousseau, nous nous lançons à la recherche de sa tombe. Mais d'abord, revenons en arrière. Jacques Doriot est né dans l'Oise en 1898. Son père était forgeron, sa mère couturière, un milieu ouvrier. Première question, qui était Jacques Doriot avant la Seconde Guerre mondiale?
Alors Jacques Doriot, de tous les personnages dont on parle qui sont en Allemagne à la fin de la guerre, a quelques caractéristiques un peu particulières. D'abord, c'est un prolétaire. C'est un ouvrier métallurgiste. Rien à voir avec un Fernand de Brennon qui est un aristocrate ou des intellectuels comme Déa qui était un normalien. Et puis c'est un homme qui a eu deux voire trois carrières, ce qui est assez fréquent à l'époque. D'abord, c'est un ancien combattant.
Hé les gars, venez m'aider. Je crois qu'ils m'ont pété une jambe.
On peut même dire, ils sont pas très nombreux, qu'il a eu le privilège d'avoir à la fois la Croix de Guerre en 1918, donc il a fait la Première Guerre mondiale, et puis il a eu la Croix de Fer en 1943-44. Il n'y en a pas beaucoup, quand même, de Français qui ont eu les deux décorations. Et donc c'est un militant communiste.
Alors voici l'ordre du jour de la réunion de ce soir. Le bureau a invité quelques bons sympathisants. Lucien, Jacques, un camarade de la découpe. Nous examinons d'abord la situation dans l'usine.
Il va rejoindre les rangs du Parti communiste, il va avoir un rôle important, il sera un secrétaire des jeunesses communistes.
Paysans, ouvriers,
chômeurs,
jeunes gens et jeunes filles,
fils du peuple,
amis, camarades,
le Parti communiste vous appelle.
Il va même monter dans la hiérarchie, il a même un temps été question qu'il puisse devenir secrétaire général du Parti communiste, pour dire on a affaire quand même à un homme qui a un certain poids, était maire de Saint-Denis, député de Saint-Denis.
Camarades, le chômage qui atteint 50 millions d'ouvriers dans le monde est un mal profond, chronique, attaché au système de production capitaliste.
Jacques Doriot, 1934.
Karl Marx nous a montré ses causes en analysant le double caractère de la production capitaliste. En vue d'augmenter les profits tirés de l'exploitation des ouvriers, le capitalisme rationalise, comme on dit aujourd'hui.
Et bon, pour aller vite, à l'époque, le Parti communiste est sous la coupe de Staline, de la Troisième Internationale. Il y a beaucoup de divergences de stratégie.
Jacques Doriot, 1936.
Le parti auquel nous avons appartenu pendant longtemps, qui s'appelait le Parti communiste, a maintenant complètement changé de politique.
Il va peu à peu s'éloigner, en gros, de la ligne du parti, ce qui, en général, ne pardonne pas à l'époque. Et il va en être exclu en 1934 pour divergence profonde.
Camarades.
Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, 1935.
Nous nous sommes battus contre l'opportunisme. Nous nous sommes battus, notamment dans la dernière période,
contre Doriot. Et nous sommes parvenus à l'isoler partout.
Dans le même temps, à peu près, il va être influencé par la montée du fascisme. 1934, c'est nous sommes un an après la prise de pouvoir de Hitler, mais il est aussi beaucoup influencé par le fascisme italien. Et pour dire les choses rapidement, il est assez symptomatique de ce que Zev Sternel, l'historien israélien, a appelé la droite révolutionnaire, c'est-à-dire la jonction entre le nationalisme et le populisme, la jonction entre une sorte de glorification de la nation comme concept, plus que comme patrie d'ailleurs, je tiens beaucoup à cette distinction, et puis une approche populaire de la société, une organisation de masse, ça va être son objectif.
Archives Pathé Gaumont, 1936.
À Saint-Denis, nos trois reporters sont accueillis par Jacques Doriot, député maire.
Mes camarades, que le but essentiel de la campagne que nous menons est de mobiliser les travailleurs de Saint-Denis en faveur du maintien de la paix. Bravo !
C'est comme ça qu'il va fonder en 1936 le Parti populaire français, qui va devenir un des partis qu'on peut considérer comme un des partis fascistes français, qui n'aura pas une grande importance. Nous sommes à l'époque du Front populaire. Bon, il est pacifiste. Il va s'opposer d'ailleurs au Front populaire à ce moment-là.
Voyez-vous, monsieur Léon Blum ne comprend pas ce pays.
Jacques Doriot, 1936.
Il le comprend, c'est encore plus criminel. Où m'a-t-on de conduire ce pays? Les communistes sont en train de nous pousser vers la guerre.
Résumons. Jeune leader communiste dans les années 1920, Doriot est animé par de vives ambitions personnelles, en rupture avec la ligne de Staline à Moscou. Exclu du Parti communiste par Maurice Thorez en 1934, Doriot est fragilisé.
Demandez l'Élysée, l'Humanité, le journal de la classe ouvrière, tous les détails sur la victoire du Front populaire.
Humilié, il cherche à se venger du Front populaire dont il est tenu à distance. Fasciné par les révolutions nationalistes en Italie et en Allemagne, Doriot fonde un nouveau parti en 1936, le Parti populaire français, dont il expose le programme à la radio. Écoutez bien les idées de Jacques Doriot.
Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les politiciens que les travailleurs honnêtes. Les amis de Blum et de Thorez ont eu davantage droit de cité que les modestes producteurs. Tout a été faussé par la politique. L'invasion espagnole souligne le danger. Elle ne le crée pas. Il est plus ancien et plus profond. Aussi, il faut lui appliquer des remèdes qui portent sur l'ensemble des étrangers.
Au départ, donc, le PPF se veut un concurrent du Parti communiste.
Notre vrai combat est socialiste, anticapitaliste. Nous aussi, nous sommes des hommes de gauche.
Jacques Doriot aspire à une politique socialiste, mais uniquement réservée à la nation française. Autrement dit, un programme à destination des classes populaires, mais avec une préférence nationale.
Des remèdes qui permettraient au pays d'utiliser la main-d'œuvre étrangère tout en se gardant des dangers que provoquent les immigrés politiques. Selon lui, il conviendrait de réviser les naturalisations d'après-guerre en vue de maintenir dans le cadre français des forces utiles et d'en écarter les forces politiquement, socialement et économiquement néfastes. Il pourrait alors donner à la masse des étrangers ainsi épurés un statut qui préciserait ses devoirs à l'égard du pays qui les hospitalise, ses droits, ses formes de représentation auprès de nos institutions.
Quel est l'esprit de ce statut voulu par Doriot ?
Une une règle fondamentale présiderait à l'élaboration de ce statut. La priorité absolue du travail pour les Français. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire. Cette règle permettrait de n'admettre que l'immigration nécessaire à notre production et non celle qu'exigent communistes et socialistes pour renforcer leur cohorte révolutionnaire.
Doriot incarne donc parfaitement cette droite révolutionnaire, celle qui est à la jonction du populisme et du nationalisme. Une mécanique déployée par les nazis. Illustration avec les propos de Mademoiselle Jacques, secrétaire du PPF, témoignage recueilli par Henri Rousseau en 1982.
Pourriez-vous me dire quand vous êtes entrée au PPF et quels étaient vos motifs d'y entrer ?
Je suis entrée au PPF, j'avais milité un peu à l'Action française.
Contre la peste moscovite, contre la franc-maçonnerie et la juiverie internationale, demandez l'Action française.
Je suis rentrée en 1937, le parti me semblant un parti national et en même temps social. C'était un parti nettement anticommuniste et qui regroupait aussi bien l'extrême droite jusqu'à des communistes. Et leur parti social et national m'avait emballé.
Pierre Drieu-La Rochelle dans Avec Doriot, 1937. Doriot est grand, gros et fort. Il sue beaucoup. Il a des lunettes, ce qui est regrettable, mais quand il les retire, on voit qu'il sait regarder. Il a beaucoup de cheveux. Il est au milieu d'une substance abondante et forte. Il a de la santé. Ça se voit quand il pense à voix haute pendant 3 heures de suite et qu'à la fin, c'est mieux qu'au commencement.
Lorsque j'ai quitté le Parti communiste, j'ai eu le courage de jeter mon écharpe dans la balance et de me représenter devant vous. Vous m'avez approuvé à l'époque.
Quand on le voit, on se dit qu'il y a encore des Français costauds et qui peuvent dominer la situation.
Parlez-moi un peu de Doriot.
Doriot, c'était un orateur extraordinaire. Il était venu de la base, il était simple ouvrier.
Mademoiselle Jacques.
Il a été communiste. Et quand il a vu la Russie, il a changé complètement d'idée. Il a vu toutes les ordres venaient de là-bas, que ce n'était pas une réussite. Et il a voulu faire un parti, si vous voulez, communiste et national.
Pierre Drieu-La Rochelle dans « Avec Doriot », 1937. Au PPF, nous ne sommes pas des hypocrites. Toute la vitalité et la grandeur de notre mouvement, c'est que nous sommes les seuls à jouer carte sur table. Doriot nous a donné un magnifique exemple de courage dans la sincérité. Un beau jour, il s'est levé et il a dit « Moi qui ai combattu plus fort que quiconque pour l'international, je viens vous dire que je me suis trompé sur l'international. »
Traduction, le genre humain est un leurre, un piège. Et pour Doriot, désormais, seule compte la hiérarchie entre les nationalités, la loi du plus fort.
Et quelle était votre réaction lorsque la guerre a commencé ?
La guerre a commencé, au début, il y a presque un an de flottement. En 40, quand nous avons été occupés, Doriot n'a rien fait, il était contre l'occupation. Il n'est pas ami avec les Allemands à ce moment-là. Et il s'est engagé au moment où on a demandé des volontaires pour aller combattre en Russie. Là, il s'est engagé lui-même. Et il a demandé à ses partisans, ceux qui voulaient s'engager sur le front de l'Est. Il est parti lui-même.
Les nouvelles du front de l'Est nous apprennent qu'au cours d'une cérémonie militaire qui s'est déroulée le 16 novembre, le lieutenant Jacques Doriot a reçu la croix pour le mérite avec épée.
Archives Radio Paris, février 1944.
Déjà titulaire de la croix de guerre 1914-18, de la croix des TOE, de la croix de guerre 39-40 et de la croix de guerre légionnaire, notre chef a reçu avec cette décoration la consécration de la lutte qu'il mène depuis plus de 2 ans dans les rangs de la LVF. C'est le seul chef de parti politique français qui ait été décoré sur ce front.
On croyait sincèrement à la victoire de l'Allemagne à ce moment-là. On a cru que toute l'Europe allait passer contre le communiste, devenir anticommuniste.
Hymne du PPF, 1937.
Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le joug des luttes fratricides que l'étranger apporte sous ton toit. Sous le couvert de promesses perfides, que le français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fauteurs de querelles, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi.
Oui. Elle est là-bas. Non.
Toujours à la recherche de la tombe de Jacques Doriot dans ce cimetière de Mengen, je marche aux côtés d'Henri Rousseau, qui nous raconte la suite des aventures du leader du PPF.
Au moment de la défaite de 1940, il va d'une certaine manière approuver cette défaite, soutenir Pétain, on va dire, du bout des lèvres. Mais ce qui est le plus important à retenir, enfin, de mon point de vue, c'est que durant les 4 années d'occupation, le PPF de Doriot, d'abord, il reste à Paris. C'est très important. Il reste à Paris et le gouvernement est à Vichy officiellement, même si l'administration française est à Paris. Et il va y avoir un clivage entre Vichy et Paris. Alors Vichy, c'est le gouvernement, on va dire légal, sinon légitime. Et à Paris se trouvent tous les collaborationnistes, c'est-à-dire tous ceux qui ont une stratégie qui consiste à se mettre au service de l'Allemagne nazie, à profiter de leurs subsides.
Alors là, sur toutes les colonnes, encore plus loin, point d'exclamation.
D'accord.
À avoir des moyens de propagande, notamment des journaux, la radio, etc., qui sont au service de la politique nazie. Doriot fait partie de cela. On les appelle les collaborationnistes. C'est-à-dire que la collaboration pour eux n'est pas une stratégie, ce qu'elle a été pour le gouvernement de Vichy. Elle est une idéologie.
Maintenant que ces messieurs le sachent bien, la France est perdue pour les Juifs. Et cela ne veut-il pas dire que pour les Français, elle est aux trois quarts sauvée ?
Donc, il s'oppose assez vigoureusement à la politique du gouvernement français de l'époque, donc Pétain, Laval, etc., parce qu'il considère que cette politique est trop molle, d'une certaine manière, ne va pas assez loin dans l'engagement de la collaboration. Il est l'un des initiateurs, en 1941, de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. C'est-à-dire que son engagement est radical. Il ne s'agit pas simplement, entre guillemets, de sauver les meubles, qui était la justification de la politique de Pétain. Il s'agit de s'engager militairement aux côtés de l'Allemagne nazie.
On s'étonne quelquefois de notre optimisme quant aux événements militaires.
Jacques Doriot, 1944.
Ce n'est pas de l'optimisme. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du pessimisme. C'est de la résolution de combattre que nous avons. Il suffit d'avoir vu la Russie pour être décidé à combattre le bolchevisme. Jusqu'au bout, quelle que soit l'issue du combat, nous serons satisfaits d'avoir accompli notre devoir.
Alors, une des particularités de Doriot, c'est qu'il n'a jamais fait partie du gouvernement. Contrairement aux autres chefs de la collaboration qui vont entrer dans le gouvernement entre 1943 et 1944 et qui vont venir en Allemagne fort, même si c'est une mascarade, d'un titre, un portefeuille ministériel. Doriot, lui, est resté relativement indépendant. J'insiste là-dessus parce que quand ils vont... Enfin, tout ce petit monde va se retrouver en Allemagne entre la fin août 1944 et avril 1945, cette division va rester. La plupart des collaborationnistes sont à Sigmaringen. On est dans cette fiction d'un gouvernement français sous l'égide de Pétain qui ne peut rien dire et qui continuerait d'une certaine manière la légitimité du gouvernement qui était à Paris ou à Vichy jusqu'en 1944. Doriot, lui, c'est un parti politique. C'est un parti politique qui va venir en Allemagne avec armes et bagages. C'est littéralement la formule qui correspond avec... à peu près 5000 personnes, qui comprennent à la fois les militants, les cadres, des troupes paramilitaires, on va dire, puis les familles. Il ne faut jamais oublier que tous ces gens-là sont venus en général avec leurs familles, donc femmes, enfants, etc.
Donc, en effet, à la fin de l'été 1944, comme Philippe Pétain, Pierre Laval ou Fernand de Brinon, Jacques Doriot atterrit lui aussi en Allemagne. Quel est son but ?
Lui va jouer un jeu différente de Sigmaringen. Donc, il va mener encore son jeu personnel.
il a avec lui des troupes, et puis il a une idée qui n'est pas celle de Sigmar Engen, qui n'est pas celle de la commission gouvernementale. Il est persuadé que l'alliance entre la résistance non communiste et la résistance communiste ne va pas tenir. C'est une analyse qui est fausse, mais qui pouvait, dans les circonstances et dans l'esprit dans lesquels pouvait être un Doriot, pouvait être une éventuelle stratégie. Et il va beaucoup insister sur ce point. Par exemple, il interpelle Delattre, il interpelle Leclerc, il interpelle les grands chefs militaires qui ont rejoint De Gaulle sur le thème de l'anticommunisme. Bon, ça n'aura jamais le moindre succès.
Jacques Doriot dans le journal Le Petit Parisien. Le 26 janvier 1945. À vous, Leclerc, alias Haute-Cloque. À vous, Delattre de Tassigny, à tous vos officiers. Si l'on vous avait dit un jour que vous seriez placé sous la conduite du déserteur Thorez, vous auriez protesté avec indignation. Ma conviction profonde est que vous vous trompez. La France n'est pas menacée, ni territorialement, ni impérialement par l'Allemagne nationale socialiste. Vous ne le croyez pas encore, c'est pourquoi nous ne sommes pas du même côté de la barricade. À part le général de Gaulle, séduit par le bolcho-moscovisme, vous n'êtes pas des communistes. Vous ne le serez jamais.
Jacques Doriot aspire désormais à être le seul véritable recours, incarnant la France éternelle contre le bolchevisme. Et pour se démarquer, celui qui a maintenant revêtu l'uniforme allemand prend soin de se tenir à distance de la colonie des collabos français.
Sigmar Engen n'est pas assez bien pour lui. Il veut, avec l'aide d'une partie des grands chefs Bosch, le pouvoir. Tout le pouvoir.
Donc l'ensemble des troupes, l'ensemble des, à la fois des cadres, des familles, vont déménager et vont être envoyés sur le lac de Constance, dans un endroit alors qui n'est pas du tout Sigmar Engen, mais qui ne manque pas non plus d'un certain pittoresque, qui est l'île de Meinau. Et c'est là où, en gros, Doriot va poursuivre ses activités.
Témoignage d'Albert Begras, un proche de Doriot.
Sur l'île de Meinau, les rescapés du PPF mènent une grande vie. Ces dames tiennent salon sous les lustres en cristal du roi de Suède.
Attendez, mais vous n'allez pas vous enterrer comme ça. Vous m'avez promis quelque chose.
Ces messieurs leur font la cour, s'enivrent, jouent, papotent et oublient, au fond des canapés de brocart, leur rude vie de militant.
Je grossis à vue d'œil. Je passe ma vie à table.
Mais ça vous va très bien.
Vous trouvez ?
Absolument !
Les dîners aux chandelles sont servis sur de petites tables nappées de dentelles par de rondes ukrainiennes dans les immenses salles de réception du rez-de-chaussée aux allures de palaces fin de siècle.
Très hostile au gouvernement factice de Sigmar Engen, qu'il juge avec mépris, Jacques Doriot veut jouer sa propre carte et devenir le Führer français. Ainsi, le 6 janvier 1945, le leader du PPF crée un comité de libération française.
Et maintenant, messieurs, au travail.
Qui se veut l'équivalent collaborationniste de l'aventure gaulliste, avec l'espoir de sauver la France des alliés. Alliés que Doriot juge à la solde du bolchevisme.
Tout ça, il faut imaginer qu'on est dans l'Allemagne qui est en train de s'effondrer. Hein. C'est Fernando Brinon qui est le chef de la commission gouvernementale supposée être la continuité du gouvernement français, va adhérer à ce comité français de Doriot. Parce que, voilà, le moteur aussi de tout ça, c'est l'ambition, la peur, la haine. Bon, voilà. Et donc, ça va créer, évidemment, encore une fois, un jeu d'intrigue, de rivalité. Et tout ça, à un moment, doit quand même se concrétiser par la véritable intronisation de Doriot. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de rejoindre Sigmar Engen. Il n'a jamais été un Sigmar Engen, Doriot.
Déposition de Ginette Desouches, maîtresse de Jacques Doriot, juillet 1945.
Le jour où Doriot a été tué, il se rendait à Sigmaringen pour y rencontrer Déa et former le comité de libération qui devait regrouper toutes les forces nationales socialistes françaises, c'est-à-dire LVF, RNP, Francisme, Mouvement Prisonnier, ainsi que d'autres groupements de moindre importance.
Et en fait, il ne verra jamais Sigmaringen, donc on est le 22 février, donc rendez-vous a été pris. Enfin, voilà. Et donc, il va au château Sigmaringen, il a rendez-vous avec Brinon, Déa et toute la commission gouvernementale. Et c'est sur la route que nous avons emprunté, d'ailleurs, pour venir à Mengen, qui relie donc le lac de Conflans, l'île de Marina au Sigmaringen, qui va être mitraillé. Enfin, sa voiture va être mitraillée par deux avions. Alors, après, on est dans les conjectures, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. C'est une littérature qui apparaît évidemment bien après, surtout au moment où il y a des procès contre les doriotistes. Et donc on va dire, ah oui, mais c'est parce qu'il était en train de tourner Kazakh, il voulait rejoindre la résistance, et puis c'est les SS qui voulaient se venger de je ne sais plus exactement quelle intrigue. Bon, tout ça ne tient pas vraiment debout. D'abord, il y a très peu d'avions allemands dans le ciel à ce moment-là. Il y a quasiment plus d'avions allemands. J'avais trouvé cette information tout simplement dans la presse française de l'époque. Il y a à peu près 10 000 avions qui survolent l'Allemagne ce jour-là. Donc, il est très vraisemblable. J'en dirai pas plus parce que j'aime pas trop faire des conjectures sur ce genre de choses, mais très vraisemblable que des avions en maraude volant à basse altitude, voyant une voiture, alors en principe avec un fanion. Alors, c'est un fanion français, c'est ce que disent certains témoignages. Je ne suis pas sûr que du haut de leur cockpit, ils aient pu identifier que c'était un drapeau français. Et puis, qu'est-ce qu'aurait fait un drapeau français, a priori, là? Bon, et donc, ils ont mitraillé la voiture. Et donc, Doriot a été tué à ce moment-là.
Jean-Hérold Paqui, dans Mémoire, 1947. Jacques Doriot méconnaissable. Les jambes presque détachées du corps. La poitrine, la tête comme un bloc de sang, avait fermé sa main sur la portière enfin ouverte, mais trop tard.
Quelques jours après, il va être enterré ici, au cimetière de Mengen, qui est tout simplement proche de là où il a été abattu, et c'est une cérémonie grandiose.
Le journal La France, le 24 février 1945. Jacques Doriot, chef du Parti populaire français, fondateur du Comité de la Libération française, assassiné par des aviateurs terroristes. Hommage de Jean Luchaire. Jacques Doriot n'est plus. Ce n'est pas seulement avec affliction que l'on répète cette tragique petite phrase, c'est avec une sorte de stupeur. Jacques Doriot était de ceux que la mort ne semblait même pas devoir effleurer, pendant de très longues années encore.
C'est une lanterne,
c'est une lanterne.
C'est pour une bougie.
Oui, je pense qu'on va être une bougie. Ouais.
Alors, Henri Rousseau, on a trouvé la tombe de Jacques Doriot. Est-ce qu'on peut dire juste un mot pour commencer? À quoi ça ressemble, cette sépulture de Doriot?
Nous sommes devant une sorte de carré de verdure. Et la tombe elle-même, c'est un petit menhir. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Elle a une particularité quand même. C'est qu'il est indiqué, alors il faut un peu écarter les feuilles pour le voir, Jacques Doriot, sans autre explication, avec une faute quand même au prénom. Le prénom est écrit J-A-Q-U-E-S, il manque le C. Donc voilà, c'est probablement un marbrier, ou je ne sais comment dire, allemand, qui a écrit ce nom et qui a fait une faute d'orthographe. Alors on devine une croix, sans ostentation, on va dire. C'était pas ce qui caractérisait le mieux Jacques Doriot. Et donc, voilà. Dans mon souvenir, d'ailleurs, à l'époque, au moment de l'enterrement, la tombe était beaucoup plus remarquable, entre guillemets. Elle était au pied d'un buisson. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de plus net. L'enterrement de Doriot, c'est un événement, quand même.
Jean-Hérold Paqui, dans Mémoire, 1947. La foule défile devant la tombe ouverte où le drapeau tricolore mettait de la lumière. Darnan et Luchère s'éloignèrent ensemble. On ne lisait rien dans les yeux impassibles. Debrinon, Déa, était visiblement ému. Marion était passée en pleurant.
Je suis ravie de vous revoir, même en ces tristes circonstances.
Moi aussi, Evelyne.
Le ciel était rouge vers l'ouest, comme d'un incendie dévorant la forêt noire. Présage.
Alors justement, Henri, on a une photo de l'enterrement de Doriot que je vais vous tendre là, je vous tends la photo. Nous sommes donc devant cette tombe où a été prise cette photo le 25 février, je crois, 1945, trois jours après la mort de Doriot entre Constance et Sigmaringen. Est-ce qu'on peut commencer par décrire cette photo de l'époque, Henri Rousseau ?
On voit le cercueil qui est enveloppé d'un drapeau français. Et sur le drapeau français ont été déposés l'uniforme et la casquette de Sturmbannführer de la SS de Doriot. Encore une fois, il était engagé, il avait même été un des fondateurs de la LVF. Il s'était engagé sous uniforme allemand. Et donc, que dire, enfin, c'est presque une évidence de voir cet uniforme SS, c'est pas simplement un uniforme allemand, c'est aussi un uniforme SS, sur la tombe revêtue d'un drapeau français, ben, c'est un symbole qui se passe de commentaire. Alors, ce qu'on voit aussi sur la photo, c'est au premier rang, enfin, c'est probablement un Allemand qui a pris la photo, on voit et on aperçoit quasiment que des dignitaires nazis. Ils étaient nombreux. Il y avait un représentant de Himmler, donc du chef de toutes les polices allemandes. Il y avait un représentant de Ribbentrop. Puis derrière, il y avait toute la collaboration, tous les restes de la collaboration. Il y a Déa, Darnan, Debrinon, les écrivains. Ils sont tous là. Puis on n'a pas à dire. Le PPF comptait aussi pas mal d'intellectuels. Hein, des gens comme Lucien Rabatet, Pierre-Antoine Cousteau, qui a été un des leaders du PPF, sont tous là. Et donc, c'est un événement assez... Enfin, à la fois étrange, important, parce que on voit bien ce qu'a été la collaboration franco-allemande avec les nazis. Ce mélange entre des intellectuels et des politiciens qui ont cru à l'idée que la France pourrait être un élément important de l'Europe allemande, bah, est en train de, tout simplement, de, pardonnez-moi l'expression, de crever sur place dans un petit village du sud de l'Allemagne.
Discours prononcé sur la tombe de Jacques Doriot le 25 février 1945 par Monsieur le ministre Reinebeck, représentant de Monsieur von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich. Le Parti populaire français perd en Jacques Doriot son fondateur et son chef. La France perd en lui une personnalité douée d'une pénétrante clairvoyance et d'une extraordinaire puissance d'action. Le Reich allemand et le mouvement national-socialiste perdent un sincère ami politique. La perfide ennemie a pu interrompre sa vie de mortel, mais son esprit et ses idées survivront. Pour tous les Français qui animent le même esprit, le sacrifice de Jacques Doriot constitue une obligation sacrée de combattre désormais dans la même voie et avec une force encore accrue pour la libération de la France.
C'est aussi une cérémonie politique. Il y aura des discours sur à la gloire de la collaboration, à la gloire de l'Allemagne. 25 février, mars-avril, il y a encore 2 mois. Et ils sont dans une telle logique que ma foi, bon, c'est fini, hein, c'est fini, mais pourquoi pas, peut-être que la situation peut se retourner. Bon, de toute manière, je ne parle pas des nazis, pour qui ce sera le cas aussi, mais pour les Français... Un retour en France maintenant est devenu quasiment impossible. Ils n'ont plus d'autre choix que soit rester, ils vont rester d'ailleurs. Il faut le dire, ce comité français de libération donc, qui s'est installé sur le lac de Constance, donc à 20 ou 30 kilomètres, va continuer à fonctionner de manière sous perfusion, on va dire. Le Parti populaire français était un parti fasciste. C'était un des rares vrais partis fascistes français. Un parti fasciste, il lui faut un leader. Le leader disparaît, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose. Alors ils vont continuer à s'agiter, à faire des émissions, etc. Mais à partir de la dernière semaine d'avril 1945, ça va être la débandade générale, tout le monde va partir. Et ici, bon, ce sont des images un peu faciles, mais on ne peut pas s'empêcher de le dire, c'est vraiment l'enterrement de la collaboration. Bon, encore une fois, je n'éprouve évidemment aucune nostalgie, mais ça fait un effet assez étrange de voir celui qui fut un leader politique français du fascisme enterré ici en Allemagne avec une tombe où il y a une faute d'orthographe à son prénom.
Après l'échec de l'offensive allemande dans les Ardennes, Doriot incarnait l'ultime recours pour les ultras de la collaboration réfugiés à Sigmaringen. Mais après sa mort, le 22 février 1945, leurs derniers espoirs se sont dissipés. Pierre Laval, lui, lucide, n'était pas aux funérailles du corbeau.
Mes respects, monsieur le maréchal.
Comment ça va, monsieur le président ?
Je suis venu vous faire mes adieux. J'ai obtenu de me faire transférer à Wilfringen.
L'ancien chef du gouvernement de Vichy doit être déplacé du château de Sigmaringen pour le manoir de Wilfringen.
Ils sont toujours aux petits soins pour vous, hein ?
Toujours aussi aimable.
Le manoir de Wilfringen, où arrive Pierre Laval le 2 mars 1945, est situé à 14 km au nord-est de Sigmaringen. Une destination que nous rejoignons en taxi, en ce 1er décembre 2024, avec l'historien Renaud Meltz.
Oui, on est dans un petit bourg, beaucoup plus petit et moins spectaculaire que Sigmaringen, puisqu'on est dans la plaine, et on est là devant un manoir qui est très bien proportionné, qui est loin d'être une petite chose, mais qui n'est pas sur des quantités d'étages comme le château de Sigmaringen, quoique il y ait quand même 4 voire 5 étages. Le manoir est très reconnaissable avec ses volets bleus et blancs.
Ce manoir appartient encore aujourd'hui à une célèbre famille de la noblesse allemande, les Stauffenberg. Ici, à Wilfringen, vit la branche des barons, cousine de la branche des comtes von Stauffenberg, dont un des membres a été l'âme du complot manqué contre Hitler en juillet 1944. Donc, c'est un manoir sous très haute surveillance de la Gestapo quand Pierre Laval y arrive le 2 mars 1945.
Le président Laval.
Bonjour, monsieur.
La raison de son séjour ici s'explique par son refus répété de coopérer avec les autorités allemandes.
Non, j'exige des garanties. Vous m'aurez pas comme ça.
Agacé, les nazis menacent de l'expédier en Silésie, où il risque d'être capturé par les soviétiques. Mais Pierre Laval, le chef des Maquignons, parvient à négocier une autre destination.
Vous êtes un redoutable négociateur.
Il obtient donc de partir à partir du 2 mars 1945 dans ce village où il va passer quelques semaines dans des conditions matérielles bien plus agréables. D'abord, on est ici dans une demeure qui est plus cossue, qui est mieux chauffée. On se nourrit mieux, hein, on est vraiment à la campagne. Et donc, il y a des bêtes alentour, il y a du fromage, du beurre, ce qu'ils n'avaient plus connu depuis longtemps. Et Laval arrive même parfois à avoir l'un de ses plats fétiches, les rognons que Jenny arrive à lui concocter, hein, ces plats canailles qui a toujours fait son délice, mais aussi son malheur, puisqu'il souffre d'un ulcère, qu'il maigrit toujours davantage. Il a peut-être, par ailleurs, d'autres affections. On soupçonne qu'il souffre d'un cancer de l'estomac. En tout cas, la nourriture a du mal à passer, mais ici, il se refait un petit peu une santé et le moral. Il bénéficie de conditions matérielles agréables et le ministère dormant est ravi d'être dans cette demeure, non seulement confortable, mais aussi propice au travail, puisque Laval essaye de s'abrutir, d'éviter la perspective assez tragique qui l'attend. Il craint un jugement expéditif, donc il prépare toujours sa défense, dactylographie des notes et des notes, et il travaille notamment avec Maurice Gabold dans la bibliothèque, qui est richement dotée depuis le départ, mais qui s'est de surcroît enrichie des ouvrages qui ont été mis à l'abri de la bibliothèque de Stuttgart.
Certes, on lit des romans à Wilfringen, Mais surtout, on prépare la future défense du président Laval. D'autant plus, après avoir entendu le sketch satirique de Pierre Dac sur le petit poste de radio que Laval trimballe avec lui.
Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, monsieur Dac. Je suis très heureux de vous revoir.
Ah, vous êtes bien aimable, monsieur le président. Et comment ça va?
Bah, vous savez, pour ce qui est d'aller bien, ça va plutôt mal. Et pour ce qui est d'aller mal, ça pourrait aller mieux.
Mais c'est curieux. Vous êtes tout humide, là. Tout trempé.
Bah, n'est-ce pas, depuis 3 ans, il a beaucoup plu. Alors, je me suis un peu mouillé.
Un peu, vous êtes modeste. J'ai l'impression que vous êtes mouillé jusqu'au cou.
C'est bien ennuyeux, parce que je n'arrive pas à me faire sécher.
Vous frappez pas, on vous arrangera ça avec une bonne corde.
Toujours le mot pour dire. Vous n'avez pas changé, monsieur Dac.
Revenons au manoir de Wilflingen, en décembre 2024.
Oui, un chasseur.
Où soudain,
allô,
nous apercevons un homme qui rentre de la chasse.
We are a French team of historians.
Yes.
We are making something like comment on dit, reportage. On,
a reporting. Yes.
Okay. With the French radio France Inter.
Drôle de hasard. Il s'agit justement du baron von Stauffenberg, qui accepte volontiers de nous faire visiter sa propriété.
Thank you so much. Ça, c'est donc le manoir qui appartient à la famille. Et en face, c'est une espèce de, tu vois, de pavillon de chasse, de maison de maître où vivait le régisseur. Et c'est là que la famille a été expulsée d'une certaine façon par la Gestapo pour faire place au ce qu'on appelle le ministère dormant, le gouvernement de Pierre Laval, ceux qui le suivent.
Le baron Gunther von Stauffenberg nous propose ensuite de pénétrer dans le manoir de sa prestigieuse famille.
And yeah, I can show you the room that is.
Donc là, on est dans la au rez-de-chaussée du manoir et on arrive dans une bibliothèque.
This is Anciana, here.
Who is it?
This is Anciana, Anciana,
hein? L'écrivain qui est donc venu à partir de 1950 et jusqu'à sa mort.
Alors, c'est Monsieur Junger, infirmière.
Ernst Junger, 1973.
Cher ami, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous recevoir dans ma maison à Wilflingen.
Ernst Junger, écrivain allemand, héros de la Grande Guerre.
Tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre pourront vous le dire. C'était un héros.
Vous l'avez vu ?
Non, seulement entendu parler.
Puis ennemi juré de la République de Weimar, et enfin officier de la Wehrmacht en poste à Paris sous l'occupation.
Tout fait la gagnera.
Est un personnage complexe et à juste titre très controversé. Immense auteur, esprit cultivé et charismatique, son œuvre littéraire a d'abord nourri l'idéologie nazie dans les années 20, avant qu'il ne prenne ses distances avec eux, à partir du moment où ils accèdent au pouvoir.
Nous sommes maintenant dans la pièce où se trouve le nouveau chancelier du Reich, Adolf Hitler.
Après-guerre, Junger s'est installé ici, dans la propriété de Wilflingen, de 1950 jusqu'à sa mort en 1998.
Il y a une espèce de télescopage assez étonnant, parce qu'on ne peut pas faire plus antagoniste que Ernst Junger, qui est l'écrivain de l'héroïsme viril, du militarisme glorieux, de l'ordalie guerrière, hein, comment l'humain se révèle dans l'épreuve de la guerre. Et il est venu, à partir de 1950, vivre dans le pavillon du régisseur, jusqu'à la fin de ses jours. Et donc là, on est devant son buste, à l'endroit même où Pierre Laval, l'antimilitariste, celui qui a été la dernière des complaisances avec le régime nazi, est venu vivre pendant les mois de mars-avril 1945.
À quoi ressemble l'intérieur de ce manoir dans lequel se retrouve Pierre Laval en cette fin d'hiver 1945?
Alors on est dans un anti-Sigmaringen, j'ai envie de dire, d'ailleurs les Laval et les ministères sont très heureux d'arriver ici, après les fastes en toc de Sigmaringen, on est là dans une demeure qui est beaucoup plus harmonieuse, qui est dans des proportions plus agréables, et qui est beaucoup plus homogène aussi d'un point de vue stylistique, et donc là on est dans un rez-de-chaussée qui doit dater du 15e siècle, voûté, mais avec des entrées lumineuses quand même suffisantes pour que ça ne soit pas du tout sordide. Et cette pièce, comme les autres, est meublée d'une façon beaucoup plus sobre, avec des murs clairs, des murs blancs. Donc ça contraste avec le côté cramoisi, très, très chargé de Sigmaringen.
Enfin, qui entoure Pierre Laval durant son séjour à Wilflingen?
Dans cette
petite société, on est là beaucoup plus harmonieux, on est sur la même ligne politique, c'est-à-dire on ne renie pas du tout sa politique, hein, on considère qu'on a fait ce qu'il fallait pour sauver la France et pour défendre la paix, mais on n'est pas non plus dans le délire d'un Brinon qui pense à une revanche ou qui croit avoir encore une prise sur la réalité. On est parfaitement conscient cette fois que la partie est perdue.
Il est trop tard. C'est trop tard.
D'ailleurs, une anecdote qui montre bien l'état d'esprit de ces exilés qui lorgnent vers la Suisse. Tous les jours, Pierre Laval part avec deux ou trois proches faire une promenade assez longue, plusieurs kilomètres de marche dans la campagne. Ça leur permet aussi d'ailleurs, à la grande surprise des Allemands, de cueillir en ce jeune printemps allemand des pissenlits qui viennent un peu compenser le manque de produits frais. Et un jour qu'il marche dans cette région giboyeuse, il voit une scène qui devient une allégorie de leur situation et que Laval a décrite lui-même, une scène de quelques dizaines de biches et de cerfs qui sont poursuivis par des chasseurs et à l'arrière de cette horde de cerfs à l'envers, qui fixent les chasseurs et qui font tampon entre les chasseurs et le reste de leurs congénères. Et Laval dit voilà, c'est nous, sauf que nous, on s'en sortira certainement pas. Il pense souvent à la parole de son collaborateur Pierre Lazaric, qui lui disait « tu ne trouveras pas une pierre pour poser ta tête après la guerre ». Et effectivement, Laval sait bien que ce refuge est provisoire. Les armées alliées et soviétiques convergent et bientôt il faudra partir.
Marcel Déa dans son journal, mars 1945. Nous voyons passer très fréquemment au-dessus de nos têtes, non plus une escadre, mais des centaines et des centaines de bombardiers, par vagues successives, garnissant le ciel d'un horizon à l'autre.
Mesdames et messieurs, excusez-nous, c'est idiot, mais obligatoire, vous devez aller aux abris.
10h-10. Gros passage de bombardiers sur Sigmaringen. Fin d'alerte à midi. Tout le monde sort des abris. Nouvelle alerte à midi 15.
En conclusion de ce cinquième épisode, retenez d'abord que le parcours politique de Jacques Doriot nous en dit long sur sa folle passion du pouvoir.
Avec une poignée héroïque de Français, nous sommes entrés dans la carrière magnifique. Que la France nous suive sans hésiter. C'est la voie de salut. C'est celle qui redonnera à notre pays l'honneur et la liberté.
Et comment de tels hommes, à l'image des nazis et de tous les collabos de Sigmaringen, ont pu transformer leur pays et le monde en enfer. Ensuite, ayez en tête que les obsèques de Jacques Doriot, en février 1945, marque la fin des espoirs collabos. C'est donc là, dans ce cimetière de Mengen, en territoire allemand et au milieu d'officiers SS, que s'est achevée la funeste aventure du nationalisme français. Enfin, à l'image de Pierre Laval, qui entend depuis son manoir de Wilflingen le bruit des canons alliés, tous les collabos français de Sigmaringen sentent soudain que leur fin est proche.
Après avoir achevé le nettoyage de la rive gauche du Rhin, l'armée française, emmenée par le général Delavre de Tassigny, a franchi le fleuve en force pour la première fois depuis 150 ans.
Comment la traversée du Rhin par les Alliés fin mars 1945 sème la panique chez les collabos de Sigmaringen, c'est l'horizon du prochain épisode. Le crépuscule des bourreaux, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Elsa Le Poivre, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, L'étrange débâcle. Le crépuscule des bourreaux est un podcast original de France Inter.